20h05 secondes, dans 3 secondes précisément. À venir, dans la prochaine heure, nous aurons un extrait du podcast de La Poche Bleue. Vous savez, La Poche Bleue, c'est Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse qui reçoivent des invités. D'ailleurs, vous pouvez voir ça sur YouTube. Ils ont reçu hier Donald Brashear. Donald Brashear qui parle des conséquences de ces commotions cérébrales suite, vous vous souvenez, Marty McSorley, le coup de bâton sur la tête à l'époque, il était avec les Canucks de Vancouver. Je parle de tout ça, on vous rejoint un extrait tout à l'heure de ce podcast, La Poche Bleue, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. On aura avec nous également Alex Agostino. Pourquoi? Parce que le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, met en garde les joueurs de mieux gérer la crise COVID-19, sinon mettra un terme à la saison. Pourquoi? Parce qu'il y a un match ce soir, encore une fois reporté, entre les Brewers de Milwaukee et les Cards de Saint-Louis. Deux cas de COVID chez les Cards. Est-ce qu'on poursuivra cette saison? Alex viendra nous en parler. On parlera également de Lance Stroll, qui a été le plus rapide aujourd'hui au Grand Prix de Grande-Bretagne. Philippe Lagu sera là pour nous en parler. Mais pour l'instant, le collègue Jérémy Filosa est avec nous. Salut Jérémy!
Salut!
C'est le retour du balado Sortie de zone avec les gars de la Presse Plus, avec Guillaume Lefrançois et Alexandre Pratt. Martin McGuire est là également. C'est le retour du hockey, c'est le retour de Sortie de zone?
Oui, exactement. En fait, c'était la première là, de la, on va appeler ça la deuxième saison, là, même si on est dans la même saison. Mais ce podcast qui, on va le dire, là, a pris feu l'année dernière, qui est sorti un petit peu de nulle part et que les gens ont beaucoup apprécié. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de questions de la Ligue nationale, mais beaucoup de questions dans l'édition d'aujourd'hui, bien sûr, du Canadien de Montréal qui commence son tournoi demain contre les Penguins de Pittsburgh. Si tu veux bien, on peut écouter un extrait, une portion de l'émission d'aujourd'hui. La première question que j'ai posée à Martin McGuire, à quel point on peut se baser sur la performance du Canadien mardi soir face aux Maple Leafs, pour se faire une idée, pour se faire une tête là, pour ce qui est du tournoi du Canadien qui s'en vient et qui débute demain. On écoute.
Ben, moi, j'ai l'impression que le Canadien est capable de mieux que ce qu'on a vu contre les Maple Leafs. Je pense que le phénomène d'une équipe qui n'avait pas joué depuis 4 mois, c'est sûr que les gens vont dire, mais les Maple Leafs aussi, c'est vrai, mais c'est parce que le phénomène d'une équipe qui n'a pas joué depuis 4 mois et qui n'a pas énormément de profondeur comparativement à la profondeur des Leafs. On peut s'y fier par rapport à ce que ça va être entre l'écart des employés de soutien des Penguins de Pittsburgh versus ceux du Canadien. Ça nous a sauté aux yeux dans le match contre les Maple Leafs de Toronto. Il y avait même une couple de gars clés du Canadien là, qui ont eu un peu de mal à prendre le tempo. Là où il faut aussi prendre des notes très importantes, c'est que l'écart qui existe entre les Pingouins et le Canadien est au niveau du talent et au niveau de l'expérience. Le talent et l'expérience sont les deux choses les plus importantes pour moi en série si tu veux avoir du succès. Moi, je pense qu'il y a une certaine réalité qu'on doit prendre compte quand on a vu la performance de mardi versus ce qui s'en vient. Mais on sait jamais, l'émotion, ça peut faire bien des choses.
Alex, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, j'ai trouvé qu'à 5 contre 5, c'était quand même pas si mal. C'était pas optimal, mais c'était pas si pire. Par contre, l'avantage numérique, c'était absolument terrible. Ça m'inquiète un petit peu parce que l'avantage numérique, ça fait partie des choses qu'une équipe peut planifier d'avance. Hein. C'est une des seules situations de jeu où t'as le contrôle de la rondelle la plupart du temps. Il y a peut-être un petit manque de préparation ici de l'équipe. Ça m'inquiète plus. À propos de l'expérience puis du talent, je suis d'accord avec Martin. Je rajouterais par contre une troisième valeur qui est la motivation. J'ai des doutes sur les motivations profondes de plusieurs joueurs d'être là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui sont pas contents d'être là, mais tu sais, c'est clair là. Par exemple, les joueurs qui ont des jeunes enfants puis qui savent qu'ils vont peut-être être là pour 4, 5, 6, 7, 8 semaines, ça va jouer dans leur tête. Moi, je pense que les équipes qui ont, par exemple, moins de joueurs avec des enfants, risquent d'avoir un certain avantage psychologique là-dessus. Là.
Ouais. Maintenant, Guillaume, je te poserai la question, justement, pour rebondir un peu sur ce qu'Alexandre dit. Peut-être pas au niveau des joueurs, mais au niveau organisationnel chez le Canadien de Montréal. On le dira pas publiquement, mais c'est sûr qu'on doit avoir eu des discussions à savoir comment on veut jouer ce tournoi-là. Est-ce qu'on veut vraiment mettre tous les œufs dans le bon panier pour essayer de gagner à tout prix, même si ça veut dire laisser des jeunes de côté ou quoi que ce soit, on y reviendra. Mais est-ce qu'à l'interne, selon toi, chez le Canadien, on s'est dit, peut-être qu'on peut utiliser ce tournoi-là pour aller chercher de l'expérience, peut-être qu'on battra pas les Pingouins, et qu'à ce moment-là, ben on aurait aussi une opportunité d'aller chercher le premier choix. Comment tu vois ça?
Ben, disons que quand je vois les décisions personnelles qu'on a prises, ça me laisse croire qu'on veut vraiment se donner toutes les chances de gagner gagner et qu'on vise pas le développement. Parce que là, entendez-moi, là, comprenez-moi bien, je crois pas vraiment qu'ils ont des chances de gagner. Mais si, comment je pourrais dire ça, si on avait voulu prioriser vraiment le développement, ben je pense qu'on verrait Jake Evans à la place de Dale Weiss. On verrait peut-être même Ryan Poehling. Jordan Will est là. Jordan Will, je l'aime bien, puis c'est un joueur valeureux de quatrième trio, là, aucun doute. Mais je crois pas que ce soit un joueur d'avenir pour cette organisation-là. Même chose pour Dale Weiss, justement. Alors, à cause de ça, puis ensuite de ça, ben, en défense, c'est bon, Xavier Ouellet qui a une place. Xavier Ouellet a rendu de bons services. Il y a de l'expérience, je peux comprendre. Mais t'as quand même Kyle Fleury, Noah Jolson, qui, eux, ont des chances également d'être des pièces importantes de cette équipe-là, puis qui auraient la chance de vivre une très, très bonne expérience pour eux. Alors, c'est clair qu'avec les choix qui ont été faits, du moins pour commencer la série, c'est que je pense que Claude Julien veut d'abord se fier vers des joueurs qui ont du vécu, qui ont du métier, même si ces joueurs-là n'ont pas nécessairement grand avenir à très, très long terme dans l'organisation. J'ai hâte de voir si ça va changer au fil de la série. Si le Canadien devait perdre le premier match ou les deux premiers matchs, là, à ce moment-là, est-ce qu'on va changer d'approche? J'ai hâte de voir. Je serais surpris, par contre, j'ai comme l'impression que l'organisation a fait sa décision puis a décidé que ce ne serait pas un camp de développement glorifié, là, ce tournoi-là.
Ben justement, Martin, je voudrais que tu rebondisses là-dessus,
ben
si
oui,
tu veux bien.
Je voulais me permettre là-dessus. Moi, j'ai avec Guillaume puis avec quelques collègues, j'ai assisté aux deux semaines de camp avant que les gars aillent s'enfermer dans la bulle à Toronto. Puis sur l'utilisation des jeunes ou des gars qui ont plus de métier, moi, ce qui m'a déçu, là, c'est de voir que aucun jeune du Canadien, ceux qu'on a placés là, sur la liste des Black Aces, là, Hudon, Evans, Poehling, même Kotkaniemi qui est dans la formation et qui est dans le top 12, là, ce qui me déçoit, c'est qu'il y ait aucun jeune qui ait pu vraiment challenger des vétérans. Des vétérans sur qui, de toute façon, le Canadien va probablement abandonner.
Alex, si tu veux rebondir là-dessus, mais aussi, je te poserais la question, selon toi, chez les partisans du Canadien de Montréal, qu'est-ce qu'on désire? C'est quoi le pourcentage de partisans qui, selon toi, veut voir cette équipe-là gagner à tout prix cette série? Et quels sont ceux qui disent, servons-nous de ce tournoi-là pour donner de l'expérience peut-être aux plus jeunes, quitte à perdre et peut-être avoir cette option pour Alexis Lafrenière?
Ben, il faudrait vraiment s'entendre sur la définition d'un partisan. J'ai quand même beaucoup de difficultés avec la notion qu'un partisan puisse souhaiter la défaite d'une équipe. En fait, pour moi, c'est pas nécessairement un partisan, ou en tout cas, sinon, c'en est un occasionnel. Je pense que les partisans du Canadien souhaitent la victoire du Canadien, du moins dans mon entourage, là, ceux avec qui je partage ma vie souhaitent ardemment une victoire du Canadien. D'autant que les chances quand même de repêcher Lafrenière, oui, elles sont bonnes à 12%, mais je fais juste rappeler que les négligés gagnent quand même souvent dans la Ligue nationale des séries. Puis j'ai fait une compilation là, depuis le lockout, il y a eu 210 séries dans la Ligue nationale et les négligés en ont quand même gagné 91. C'est 43% des séries dans la Ligue nationale qui sont gagnées par des négligés. Je veux dire, si je suis partisan, je m'encourage quand même de ça. Là, on n'est pas à la NBA où les équipes négligées gagnent jamais. Donc, il faut que les partisans du Canadien, en fait, souhaitent la victoire du Canadien. Je peux pas concevoir de souhaiter la défaite du Canadien. Sinon, c'est le cynisme ultime du sport.
Et moi, j'en ai vu plusieurs commentaires sur les médias sociaux des gens qui prient le petit Jésus pour que, par chance, le Canadien se retrouve avec ce premier choix-là. Là.
Mais les amateurs, puis je rejoins un peu Alexandre là-dessus, puis je sais pas ce que Guillaume en pense, mais les amateurs, Jérémy, ont le droit de penser comme ça. Puis les amateurs ont le droit, sur les médias sociaux, de dire si ça peut finir contre Pittsburgh, puis qu'on a une chance de gagner la loterie, la Lafrenière. Mais moi, j'ai toujours comparé ça au combat de boxe. Tu sais, tu peux pas espérer, tu peux pas entendre Claude Julien ou Marc Bergevin rentrer dans le vestiaire demain soir là, avant d'embarquer sur la glace contre Pittsburgh, puis dire, savez-vous quoi, les gars, c'est bien cute là, qu'on soit ici, là, mais nous autres, c'est Lafrenière qu'on veut.
Ah ouais, ben non, ça se fait pas.
C'est l'équivalent de dire à un boxeur, écoute, va dans le ring, fais-nous trois belles rounds là, pour la télévision, puis après ça, couche-toi. Alors, tu sais, je veux dire, il y a des réalités, puis je pense qu'Alexandre l'a bien illustré. Tu fais pas du sport de haut niveau pour perdre, puis les gens doivent comprendre que Shea Weber, Philippe Dano, puis Brendan Gallagher, là, Alexis Lafrenière, ils en ont rien à cirer parce que pour eux, il est pas dans le vestiaire, il porte pas de chandail, il peut pas les aider ce jeu de puissance. Alors, tu sais, on est dans deux réalités totalement différentes.
Ben, t'as raison, non, mais...
Et en plus, quand tu vas avoir l'âge d'aider cette équipe-là, ben ces joueurs-là seront plus loin dans leur carrière ou seront peut-être même plus avec l'organisation pour certains. Donc, c'est sûr que ce concept-là de Lafrenière, c'est très loin, c'est très vague pour les joueurs de toute façon. Par contre, là où je comprends un peu le sentiment des partisans, de ceux qui aimeraient que le Canadien perde pour Lafrenière, c'est qu'aux yeux de plusieurs partisans, cette Coupe cette année-là n'aura peut-être pas la même valeur parce que ça se joue dans les conditions qu'on connaît, puis parce que je pense que le vrai fan, le fan de hockey qui rêve à une Coupe Stanley depuis longtemps, ben je pense qu'il rêve à cette coupe-là d'une certaine façon, avec des matchs excitants au Centre Bell, avec une foule qui transporte l'équipe, avec un défilé après. Puis ben cette Coupe Stanley-là, ben c'est ça, elle sera pas pareille parce qu'un défilé, il y en aura pas, peu importe quelle des 24 équipes là, va la gagner.
Voilà un extrait de cette balado sortie de zone en collaboration avec la Presse Plus. Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt était là en compagnie de Martin McGuire et Jérémy Filosa qui était à l'animation de cette sortie de zone, première édition, retour hockey. Jérémy, dis-moi donc, là vous avez jasé, tout le monde a donné son opinion sur à quoi va ressembler cette série entre le Canadien et les Pingouins. Vous avez jasé de quoi également?
Ben écoute, on a aussi parlé de quel risque d'être les belles histoires pour le Canadien, parce qu'on parle beaucoup, on est très négatif par rapport à cette série-là, mais il risque quand même d'y avoir des belles histoires, peut-être un Nick Suzuki qui pourrait nous démontrer qu'il est prêt à jouer dans cette ligue-là, peut-être qu'un gars comme Paul Byron va retrouver un petit peu ce qu'il avait il y a de ça un an et demi, deux ans, on l'espère. On a aussi parlé de l'amphithéâtre à Toronto, celui à Edmonton aussi, comment la Ligue nationale a tout mis ça en place en l'espace de quelques semaines. Et finalement, bon, on a parlé de l'avenir, parce que si jamais le Canadien se fait éliminer rapidement dans cette série-là, ben on va rapidement retourner dans notre mutisme, et on ne sait pas pendant combien de temps, pendant combien de mois, et quand est-ce que la saison prochaine va recommencer, et dans quel état d'esprit on sera, et dans quelles conditions on pourra le faire aussi. Est-ce qu'on va se retrouver avec une division toute canadienne au mois de décembre, pour que les équipes n'aient pas à traverser la frontière au tout début? On ne le sait pas, c'est une possibilité, on a discuté de tout ça, et notre prochain podcast, ça sera mardi, donc après le match de lundi soir pour le Canadien de Montréal, en rappelant aux gens qu'ils peuvent écouter le podcast Sortie de zone sur n'importe quelle plateforme de balado-diffusion.
Jérémy Filosa qui est à l'animation de cette balado Sortie de zone aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Bon week-end.
Merci, au revoir. Jérémy Filosa qui est allé en compagnie de Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Martin McGuire en collaboration avec La Presse Plus, disponible sur notre site web également. Vous allez faire un tour du côté du 98.5 Sport. Vous êtes en mesure d'entendre l'entièreté de cette sortie de zone, extrait numéro 1, en fait, émission numéro 1, retour du hockey. C'est toujours plaisant. On va s'arrêter quelques instants et au retour, aujourd'hui, Lance Troll a fait taire ses dénigreurs. Il a été le plus rapide dans la deuxième séance d'essai libre au Grand Prix de Grande-Bretagne. Vous allez me dire, OK, c'est juste une séance d'essai libre, mais il a quand même été le plus rapide. On en parle au retour avec Philippe Lagut.